Bonjour à tous et c'est le mug numéro 28. Nous sommes le 25 octobre 2019 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug édition spéciale du vendredi sur la chaîne principale. Je suis très heureux de vous accueillir et notamment ceux qui ne nous suivent pas les autres jours de la semaine sur la chaîne secondaire Nowtech Live. Eh bien, ils ont le rendez-vous du vendredi. On est tous ensemble, on est sur la chaîne principale et je suis ravi de vous voir ce matin. Ne vous inquiétez pas si vous avez vu la vignette, les vilaines sorcières, ça arrive tout à l'heure. Hein, rassurez-vous, il y aura du show, nous aurons un invité, hein, votre vilaine sorcière préférée sera là ce matin. On va attaquer très très rapidement parce que j'ai énormément de news ce matin. Vous savez que le vendredi, je fais un double kawa, le récapitulatif de tout ce que vous avez manqué pendant la semaine au niveau des news et les news du vendredi. Et manque de bol, aujourd'hui, il y a énormément de news pour un vendredi. Donc on attaque tout de suite le double kawa. Le double kawa ce matin, on va commencer donc par le récap de tout ce que vous deviez savoir pendant la semaine. Hein, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, allez écouter les anciens mugs. Et je vais commencer tout de suite, c'est Guillaume qui en a parlé hier. Effectivement, l'amer testament numérique de Guillaume Pépi, maintenant ancien patron de la SNCF. Effectivement, un aveu assez honnête et c'est bien. C'est bien, sur la difficulté de la transformation numérique d'une grande entreprise comme la SNCF, un grand bateau, si je puis dire, pour du train c'est un peu un comble, mais à manœuvrer. Et justement, l'article, je vous invite vraiment à aller le lire et écouter effectivement ce qu'en a dit Guillaume hier, parce que c'est très très intéressant. Il explique comment, par exemple, au début des années 2000, la SNCF a vite compris la transformation quand même qui allait avoir lieu avec Internet et que son activité allait évoluer et rapidement ils se sont mis à vendre des billets de train sur Internet. Mais je pense que nous tous, la galère de commander un billet SNCF sur Internet ou à travers l'appli, on ne cesse de pester. On se dit, mais c'est pas possible qu'une entreprise comme la SNCF, ils n'arrivent pas à faire marcher un truc aussi simple que de prendre des billets de train. Bon, déjà, prendre des billets de train, c'est pas aussi simple, c'est ce qu'on s'aperçoit. Mais ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans cet article, c'est les problèmes presque culturels et même philosophiques d'une transformation numérique d'une entreprise comme la SNCF, avec effectivement toutes les résistances que ça peut rencontrer en interne, tant avec une direction qui croit être en avance sur son temps et qui va lancer des grands chantiers numériques en laissant des gens qui sont employés de l'entreprise complètement sur le carreau, avec des jeunes énarques ou d'écoles de commerce qui arrivent dans l'entreprise. Merci Pascal pour ton super chat. La SNCF n'était pas en retard, ça serait plus la SNCF. Non mais voilà, c'est vrai qu'on a raison hein, de pester. Ça devrait être impeccable. Moi, je suis le premier. Le truc que je comprends le moins, c'est quand vous ratez une correspondance et que votre appli, elle vous dit « Bon, bah, en fait, votre parcours, il n'est pas possible. Plus de renseignements sur le site sncf.com. Tu ne peux pas me donner l'info directement dans mon app de ce que je vais devoir faire ?» Bref, on a tous ces énervements-là. Mais c'est vrai que, par exemple, il explique, et je donne juste ça comme exemple, je vous invite à aller lire le reste de l'article, quand il y a une transformation comme ça numérique, 25% du personnel est un peu embarqué dans le projet, 40 à 50% pensent que c'est un mal nécessaire, ce passage au numérique, et 15 à 20% ont honte de ne pas être à bord, cachent et masquent leur méconnaissance et leur manque d'envie. Et ça, on peut se dire, effectivement, dans une entreprise où il y a toutes les tranches d'âge, hein, la SNCF, que tout le monde accompagne la transformation numérique de cette entreprise-là, ça ne doit pas être une chose simple. Et on a vite fait d'avoir des jeunes qui vont dire « Ah, mais nous, on fait le nouveau business de la SNCF », avec une espèce de forme de mépris des manières de faire d'avant et des connaissances des plus anciens qui pourraient quand même être utiles, qui ont fait du transport voyageur alors que ces jeunes internetiens faisaient caca dans leur couche et qui ont peut-être des choses à leur apprendre. Bref, moi, j'ai trouvé ça passionnant et je trouve ça honnête et intéressant qu'un patron d'une grande boîte française comme la SNCF se livre à cœur ouvert sur ses difficultés. On continue, parce que j'ai énormément d'articles, donc je vais y aller un peu... pilote de Formule 1, je vais essayer de pas trop partir dans les graviers. On a parlé effectivement cette semaine du Pixel 4, beaucoup du Pixel 4 et notamment de ses problèmes d'identification faciale avec le problème que l'identification faciale qui ressemble à celle qu'on peut retrouver sur les iPhones, mais pas tout à fait. Sur les iPhones, on a la sécurité, entre guillemets, de ça ne s'ouvre que si on a les yeux ouverts. Ce qui évite effectivement que quelqu'un vous ouvre votre smartphone pendant que vous dormez ou vous force l'ouverture de votre smartphone en le passant devant votre visage. Si vous avez un iPhone, vous faites comme ça et on ne peut pas l'ouvrir. Le mec est obligé de vous mettre des pinces dans les yeux pour que ça s'ouvre. Enfin bref, là on parle de situation cocasse. Mais c'est effectivement un petit problème de sécurité. Google a dit qu'il travaillait sur cette notion de yeux ouverts. Là où ça pose quand même un problème, c'est au niveau effectivement de la sécurisation. On sait que chez les iPhones, cette reconnaissance faciale est suffisamment sécurisée pour que, par exemple, les banques lui fassent confiance et remplacer l'empreinte digitale par cette reconnaissance faciale. Problème peut peut-être un petit peu plus se poser côté Pixel 4. Bref, le Pixel 4, ne l'achetez pas les yeux fermés. Ah, j'ai placé mon jeu de mots. On continue dans les brèves. NordVPN, bad buzz sur NordVPN, que vous connaissez tous. Hein. Je ne suis pas sponsorisé par NordVPN. Pas encore. Non, Rinochin, NordVPN, on n'en peut plus. Ouais, n'oubliez pas qu'ils nous permettent de vivre en même temps. Bref, NordVPN admet avoir été victime d'un piratage, mais sans conséquence. Je l'ai expliqué, je crois que c'était en début de semaine, effectivement, cette news. Il y a eu, effectivement, merci beaucoup pour ton super chat, Adri. Il y a eu, effectivement, un début de bad buzz autour de NordVPN. C'est vrai que comme ils ont une certaine notoriété et qu'ils agacent un petit peu, hein, NordVPN, avec un certain matraquage publicitaire, on va pas se cacher, on a eu vite fait de se gosser qu'ils aient un problème de piratage. Néanmoins, les choses sont quand même un peu plus importantes, dans le sens où un VPN, ça touche justement à une forme de protection. Et ils avaient commencé à lancer une campagne de pub en disant « Pour se protéger du piratage, rien ne vaut un VPN ». Ouais, mais personne n'est à l'abri, même pas vous, NordVPN. Bref, les conséquences ne sont pas hyper graves, il n'y a pas eu de vol de mot de passe ou ce genre de choses. On continue, effectivement, alors là, ça va vraiment être une brève, et c'est strictement personnel parce que je suis heureux. Illustrator, c'est le logiciel pendant lequel j'ai bossé quasiment pendant 25 ans. J'aime beaucoup ce logiciel, Illustrator. Eh bien, il arrive sur l'iPad. Vous connaissez mon amour de l'iPad. Eh bien, je suis content. Bon, en même temps, j'aimerais dire à Adobe, sors-nous déjà Photoshop avant de lancer un autre truc sur les rails. Mais bon, hein, l'un n'empêchera pas l'autre. Ça sera en 2020 pour Illustrator. On espère que Photoshop va sortir bientôt. Marion vous a également fait la news d'Elon Musk qui a envoyé un message Twitter via ses satellites Starlink. C'est le réseau que veut lancer effectivement Elon Musk. Il a commencé à lancer une première salve, on peut dire, de 60 satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Il a prévu d'en lancer beaucoup plus. Je n'ai pas le chiffre. Je crois que Marion ne l'avait pas non plus, mais en tout cas, il y en aura beaucoup plus. Donc, une nouvelle manière d'accéder à Internet. Et il a envoyé le premier tweet. Donc, a priori, ça marche. Merci beaucoup pour ton deuxième super chat, Adri. Nous aussi, on te fait plein de bisous. On continue, deux news sur Netflix cette semaine qu'il fallait suivre. Justement, un démenti d'une news qu'on vous avait fait, où on avait dit Netflix a annoncé la fin du partage du mot de passe entre amis. Tout le monde s'était un petit peu affolé. En fait, non. Et c'est un cas assez intéressant. Je vous invite à aller lire l'article. C'est un article de Numérama, de nos amis de Numérama, qui explique qu'effectivement, cette histoire de que Netflix allait bloquer le partage de mots de passe et sévir là-dessus a été une mauvaise interprétation par un média américain, le Daily Dot. Alors que justement, Greg Peter, le directeur produit de Netflix, avait cité « Nous surveillons tout ça, nous verrons s'il y a des manières de repousser un peu ces limites tout en restant favorable aux consommateurs. Nous n'avons aucune grande annonce à faire en ce moment. Nous n'avons pas pour projet de faire les choses différemment pour l'instant. » Tout ça en parlant justement du partage de mots de passe. Bah, le Daily Dot, eux, ils ont fait un titre. Titre qui a attiré beaucoup de clics. Donc, on va se dire, est-ce que l'erreur était voulue ou pas? En disant, oh, Netflix, ils vont interdire qu'on partage le mot de passe en dehors de la famille. Aïe, 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 aïe. Ça a été repris par une vingtaine de médias, dont nous. Donc, amende honorable de la part de l'équipe Le Mug. Ça nous arrive aussi de relayer des fake news. C'est le monde dans lequel on vit. Et justement, la deuxième annonce, je la fais rapide sur Netflix. Netflix repart de plus belle avec 158 millions d'abonnés payants. Effectivement, la concurrence arrive à grands pas cette année pour Netflix. Mais bah, pour l'instant, en même temps, Netflix, c'est le seul. Donc, ils ont engrangé des nouveaux abonnés. Ça n'empêche pas quand même le titre d'être malmené en bourse. Et ça va être assez intéressant à étudier tout ça en 2020 avec l'arrivée de Disney+, d'Apple TV, etc. Une toute petite brève aussi pour les utilisateurs d'iOS. La 13.2 sort en octobre. Je crois même avoir vu un entrefilet ce matin, mais je ne suis pas sûr qu'elle commencerait à être disponible. Est-ce que certains dans la chatroom peuvent me dire s'ils ont eu iOS 13.2 ? Pourquoi cette mise à jour est importante ? Eh bien, pour nos amis photographes smartphone, vous allez pouvoir avoir Deep Fusion. Moi, j'ai déjà la bêta de la 13.2 sur mon iPhone. Et Deep Fusion est très intéressant. Je vous en parlerai très bientôt dans une vidéo. Dans la chatroom, non, personne... Non. Vous n'avez pas eu la 13.2. Ça devrait arriver. En tout cas, d'ici le 30 octobre, ça devrait arriver. Et sinon, Guillaume, vous donnez une autre news intéressante cette semaine. Apple et Samsung séduisent à nouveau. Huawei a été sauvé par la Chine. On parle bien évidemment des ventes de smartphones. Apple reconquiert des parts de marché, hein, puisqu'ils sont passés de 15,1% de parts de marché sur les smartphones à 18%. Donc, les iPhones se vendent bien. La nouvelle génération d'iPhone se vend bien. Bien évidemment, l'iPhone 11 en tête. Ça, c'est un peu ce qu'on avait pronostiqué. Mais les iPhone 11 Pro ne sont pas très très loin, malgré leur prix exorbitant. Et également, Samsung se vend bien, mais lui, plus sur du milieu de gamme. Leur haut de gamme se vend bien aussi, hein, mais c'est leur milieu de gamme qui drive. Et Huawei, malgré Huawei et Honor hein, cumulés, malgré les déboires avec l'affaire américaine, vendent toujours bien grâce effectivement à leur marché interne, le marché de la Chine. Voilà, c'était une petite injection de tout ce que vous deviez savoir cette semaine. C'était dense, il y avait beaucoup de choses cette semaine. Je me suis dit, ouais, le vendredi, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la tech. J'aurais 3-4 articles qui se battent en duel. Eh bien non, j'ai plein de choses à vous dire. Il se passe plein de choses aujourd'hui, vendredi, dans le monde de la tech. Donc j'attaque tout de suite cette deuxième partie, les news les plus fraîches, les news du vendredi. Et on va commencer par Mark Zuckerberg qui s'est fait atomiser par Adria Ocasio-Cortez, qui est une congresswoman, une membre du congrès aux États-Unis. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est très malaisant, hein, pour reprendre le terme de nos amis québécois. C'est très, très malaisant parce que, alors, il se fait, mais torpiller. Je vais pas vous faire l'ensemble de l'interview. Bon, elle y va pas de main morte. Elle a une manière. Elle est pas agressive, mais elle y va pas avec le dos de la cuillère, hein, comme on disait autrefois. Elle l'attaque notamment sur les liens que Facebook aurait avec des groupuscules de suprémacistes blancs, notamment, alors là, je vous invite à aller lire l'article parce que c'est un peu technique, autour du fact-checking et de la société que Facebook utilise pour le fact-checking, qui aurait des rapports avec les suprémacistes blancs. Et là où elle le torpille, Mark Zuckerberg, dès le début de l'interview, c'est qu'elle lui demande quel mois et quelle année vous avez été mis au courant des problèmes de Cambridge Analytica. Et là, il y a Mark Zuckerberg... avec une coupe de cheveux, d'ailleurs, il faut vraiment qu'il change de coiffeur. Hein. Désolé, là, c'est la Style Police qui intervient, mais Marc, ça ne va plus du tout ta coiffure. Hein. Non, mais vraiment, là, ça va commencer à se voir que tu es un reptile. Hein. Non, pardon, excusez-moi, je reviens dans l'article. Et on voit donc Mark Zuckerberg très très mal dire « Je ne sais plus exactement quel mois j'étais au courant et tout. » Et là, elle l'assassine en lui disant « Attendez, c'est quand même le plus gros scandale qui a touché votre société et vous n'arrivez pas à vous souvenir le mois, la date, l'heure où vous avez été mis au courant de ce problème-là, il est un peu mal. Il est un petit peu mal. » Effectivement, je vois dans la chatroom, certains disent « Cette nana est géniale. » En tout cas, c'est un vent très rafraîchissant dans la politique américaine, vu de loin. Hein. Je ne me permettrai pas de donner des opinions éclairées sur la politique américaine. Mais c'est vrai que quand on pense au contre-pouvoir qu'il pourrait y avoir éventuellement contre Donald Trump, c'est un nom qui revient bien souvent, Alexandria Ocasio-Cortez. Je crois qu'elle est... je connais pas les postes hein, aux États-Unis, mais je crois qu'elle s'occupe district de New York, en tout cas, où c'est le congrès côté New York, je crois. Apparemment, c'est la coupe César. Ouais, mais c'est la coupe catastrophe, quand même. Hein. Bah, et voilà, Adri, il nous fait des super chats et il a craqué, il est devenu nouveau membre. Eh bien, bienvenue à toi, Adri, membre de la chaîne. Allez, on continue dans les news du vendredi. Je reviens sur le Pixel 4 parce qu'il y a une deuxième news. Le Pixel 4 avec un lancement qui est un peu foireux, on peut le dire. Des critiques qui sont pas extrêmement positives autour de ce smartphone. Et notamment ce que Guillaume vous disait hier, le 90 Hz de l'écran du Pixel 4, en fait, n'en serait pas un. Enfin, on serait un, mais en basse luminosité, ça repasserait à 60 Hz. Et nos amis de... Bah, toujours Numérama indiquent que Google promet un patch pour l'écran du 90 Hz et indique que ce changement de fréquence 60-90 c'était fait pour économiser de la batterie. Batterie sur lesquelles ils ont déjà des problèmes dans le Pixel 4 parce qu'elle est un petit peu moyenne. Et ce que relèvent nos amis de chez Numérama est une incohérence. Parce que théoriquement, si on voulait préserver un petit peu la batterie, c'est plutôt en basse luminosité qu'il faudrait rester à 90 Hz et en haute luminosité, là où il faut balancer de la lumière dans l'écran, qu'on devrait basculer à 60 Hz. Donc l'excuse de Google ne tient pas vraiment debout. Je bois un coup quand même. OnePlus a fait un tweet moqueur à ce sujet. Les OnePlus, effectivement, qui ont aussi un écran 90 Hz. Ils auraient tort de se priver du petit tweet moqueur. Je continue sur les brèves smartphones. L'hydrogène phone. Est-ce que vous vous souvenez de l'hydrogène phone? Peut-être le pire lancement de smartphone qu'on ait connu depuis pas mal d'années. C'était le smartphone plein de promesses de chez Red. Red, fabricant de caméras de cinéma, qui promettait un smartphone modulaire sur lequel on aurait pu ajouter, vous avez compris où je veux en venir, on aurait pu ajouter des modules pour transformer ça en grosse caméra. La sortie a été assez catastrophique. La caméra qui était elle-même sur le smartphone était vraiment, on peut le dire, une caméra de merde. Le smartphone était vraiment bizarroïde et fonctionnait pas très bien. Eh bien, c'est le fondateur Jim Janhar de Red qui annonce la fin du projet Hydrogen Phone. Ils abandonnent, ils jettent l'éponge. Lui-même va quitter la tête de Red pour des problèmes de santé. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Et le smartphone Hydrogen n'aura pas de V2. Ils ont quand même dit que la prochaine caméra de Red fonctionnerait avec l'hydrogène. Mais bon, ceux qui sont empressés de l'acheter, on en connaît quelques-uns, ça fera un beau collector dans le musée d'Eiffel. Voilà. Ça sera un beau collector dans le musée d'Eiffel. On continue effectivement dans les petites news autour des smartphones. Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Le Galaxy S10, il y a eu un bad buzz effectivement en début de semaine, selon quoi le lecteur d'empreintes digitales avait un bug de sécurité sur la série des S10 et que Samsung conseillait d'effacer les empreintes digitales déjà enregistrées pour en refaire des nouvelles. Eh bien, Samsung annonce qu'ils ont corrigé le bug de sécurité de l'empreinte du lecteur d'empreintes digitales. Ils ont annoncé mi-octobre l'arrivée rapide d'un correctif. Celui-ci est maintenant en cours de déploiement sur les Galaxy S10 et les Note 10. Donc, on est rassuré. Néanmoins, par principe de précaution, refaites vos empreintes digitales. On en arrive. Il ne faudrait pas que je rate une news. Oui, alors, un article très très intéressant, mais là aussi, je vous invite à le lire parce que je ne vais pas pouvoir le résumer entièrement, mais c'est par rapport aux droits voisins. Vous savez que vous avez peut-être vu des brèves aujourd'hui que la presse française porte plainte contre l'attitude de Google et le droit voisin. Je ne vais pas faire une récap de tout ce qui se passe, mais en gros, la presse, une partie de la presse française reproche à Google de feinter la loi, de contourner la loi. Eh bien, une voix, en tout cas, s'élève aujourd'hui. C'est Julien Cadeau, toujours de chez Numérama. Décidément, aujourd'hui, on leur fait de la pub. Le rédacteur en chef de Numérama, qui prend un peu le contre-pied de cette opinion de la presse française du droit voisin et de Google, qui dit non, Google nous rend service. Nous rend service gratuitement. Et lui, il explique effectivement, c'est un autre point de vue. Donc, tout se respecte, quel que soit votre point de vue. Et il dit effectivement qu'il y a une relation économique entre Google et les médias et que Google rend service gratuitement aux médias en mettant en termes de référencement de la presse, en général, sur Internet. Donc, lui, il voit plutôt le côté positif de ce que fait Google pour la presse en drivant finalement des lecteurs vers les sites de presse. Il précise également qu'une relation économique, c'est-à-dire si Google devait payer pour les extraits d'articles qu'ils mettent en avant dans les Google News, ça induirait un problème dans la neutralité du moteur de recherche. Et il explique, et je trouve que, enfin, j'étais sensible à ses arguments, que Google est une vitrine pour le contenu, et que c'est comme ça qu'il faut le traiter, et que Google ne tire pas ses revenus de ce que fait la presse. Google tire ses revenus de ses utilisateurs sur la plateforme Google. Si les médias n'étaient plus là, ils auraient certes de moins bons contenus, mais ils continueraient à gagner de l'argent. Et il explique justement que Google News et Google Discover, c'est là où il y a les petits articles, les quelques lignes des articles de presse, il n'y a pas de publicité Google sur ces pages-là. Donc l'accusation est infondée. Et ce qu'il dit, c'est que... Enfin, ce que moi, je retire de cet article...
Là, c'est le bug, mais j'apprends de mes erreurs.
Oui, bah, apprendre tes erreurs, Google, hein, justement. Désolé, intervention à force de parler de Google. J'ai mon assistante qui s'est réveillée. Oui, j'ai la jambe qui tremble de quelqu'un. Ben oui. Je suis un présentateur sautillant. Il faut vous y habituer. c'est des trucs très difficiles à changer, ça. Bref, tout ça pour dire, dans cet article, ce qu'on en ressort, c'est que est-ce que la presse française ne serait pas en train de se tromper de combat ? Est-ce que les problèmes de la presse française peuvent être imputés à Google ? Quoi qu'on pense de Google, et effectivement, on a des choses à reprocher de Google, est-ce que le problème de la presse française et de la presse en général n'est pas plus profond qu'un problème de Google ? Est-ce que le fait d'essayer par une loi de faire en sorte que Google paye la presse pour utiliser des extraits de presse sauvera la presse ? Rien n'est moins sûr. Donc en tout cas, tout ça est sujet à réflexion. Comme je vous l'ai souvent dit, moi je suis 100% pour et je veux que la presse survive. Le travail de journaliste, c'est pas le même travail que YouTuber, c'est pas le même travail que blogueur. Ça veut pas dire que YouTuber, blogueur, influenceur, c'est pas important, mais le travail de journaliste doit être autre. Et justement, on vit peut-être une période où le journalisme pourrait regagner ses lettres de noblesse. Le tout, c'est de trouver le bon business model, et c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, où là, gratuité du net, je mets des gros guillemets pour ceux qui nous écoutent en audio autour de la gratuité, puisque vous savez que rien n'est gratuit, mais le business model de l'information est extrêmement compliqué puisque les gens n'achètent plus de journaux et pensent que tout ça c'est fait gratuitement et que les journalistes devraient vivre d'amour et d'eau fraîche et vivre de leur passion. Et oui, allez payer votre loyer en passion, messieurs les journalistes. C'est ce qu'on nous dit, hein, nous les youtubeurs, on devrait aller payer aussi en passion. Petite pique au passage. Dans les news intéressantes aujourd'hui, je ne vais pas vous la faire dans le détail parce que c'est très technique. C'est le genre d'information boursière. Il n'y a que moi pour lire ça dans le détail, même si je comprends que la moitié, même pas un dixième de ce que j'ai lu. Mais c'est les revenus de Twitter. Les revenus de Twitter sont très mauvais. Beaucoup moins que ce que la bourse attendait, donc ils sont très décevants. On devrait voir encore une chute du titre Twitter en bourse aujourd'hui. Ils ont annoncé effectivement, même si les résultats sont supérieurs à l'année dernière, ils sont inférieurs aux pronostics de la bourse. Je ne vais pas vous refaire le fonctionnement, je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait la bourse et pourquoi on peut faire un meilleur chiffre d'affaires mais se faire pénaliser en bourse. Mais les news sont assez inquiétantes. Jack Dorsey a essayé tant bien que mal d'expliquer pourquoi ça allait pas bien, on a changé notre manière de compter, comment les gens utilisaient. Puis en ce moment, on est en train de travailler sur la validité des tweets. Ned Segal, qui est le CFO de Twitter, lui a donné une explication un petit peu plus on va dire commercial, et a dit à Twitter, on est vraiment en train de travailler sur notre produit publicitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme ça que Twitter gagne de l'argent, c'est par la publicité. On travaille à affiner notre produit publicitaire pour qu'il soit de plus en plus intéressant, de plus en plus générateur de revenus, mais pour ça on a des grands chantiers comme le nettoyage de Twitter. On sait que Twitter aujourd'hui souffre d'une grande toxicité, je suis arrivé à prononcer le mot, et que, on le sait, hein, nous, lecteurs de Twitter, moi, je suis très attaché à Twitter, j'ai pas envie que Twitter disparaisse, mais c'est vrai que je suis constamment en train de faire le ménage pour éviter au maximum d'être éclaboussé par le contenu toxique de Twitter. Il y a beaucoup de haine sur Twitter, il y a beaucoup de méchanceté. C'est un espèce de forum public où certains ont compris que pour attirer l'attention sur eux, il fallait être mauvais. Mauvais dans le sens faire le mal, que ça attirait beaucoup plus d'attention que d'essayer de faire le bien, et que de propager des mauvaises nouvelles, qu'elles soient fausses ou vraies, ou des nouvelles sensationnalistes, ils n'ont rien découvert, hein, c'est juste qu'ils se sont aperçus que ça marchait mieux de donner de la fake news sensationnaliste que de s'atteler à vérifier ses sources et faire attention à ce qu'on retweetait. Donc, Twitter reste pour moi une plateforme très très importante, mais qui demande de plus en plus de travail d'hygiène si on veut le lire correctement et utiliser correctement cet outil. Et c'est dommage. Il y a des choses que propose, à part du bad buzz Twitter. Ori Bat, je ne suis pas d'accord avec toi à Twitter. Quand tu fais bien le tri des gens à qui tu es abonné et que tu te fais un flux de gens intelligents que tu aimes bien suivre et qui ont des choses intéressantes à dire, Twitter est passionnant et pour moi, même le réseau social le plus intéressant qui existe. Parce qu'on y parle d'autre chose que notre café du matin ou regardez mon ptio comme il est mignon, quoi. Des hommes politiques s'expriment sur Twitter. Dans la tech, c'est là où on a des infos les plus intéressantes. Je continue à recommander chaudement Twitter comme réseau social. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser uniquement en écoute. Par contre, le principe d'hygiène, c'est que vous devez absolument bien choisir qui vous suivez sur Twitter sous peine de vous prendre une vague du Twitter toxique. Allez, on continue. Je passais trop de temps sur l'article de Twitter. Parlons un petit peu de photos, des annonces excitantes côté Canon et réjouissantes. Et oui, je ne passe pas mon temps à critiquer Canon. Canon peut faire des choses bien. Et d'ailleurs, si vous me connaissez bien, si on critique en ce moment pas mal Canon, c'est parce qu'on aime bien Canon. Moi, j'ai commencé avec un Canon et je trouve qu'ils font des choses bien, mais ils font des choses aussi extrêmement énervantes. Là, ce qu'ils annoncent, ça a l'air pas mal d'un point de vue technologique. Ça va être pour le 1DX Mark III, donc c'est leur haut de gamme. Hein. C'est un boîtier qui vaut entre 6 000 et 7 000 euros. Donc, ce n'est pas forcément pour nous, mais les technologies qu'ils vont embarquer, pour le coup, ils ne se sont pas trop restreints. Bon, en même temps, 6 000, 7 000 euros, il ne fallait pas se restreindre. Mais en tout cas, les rumeurs parlent d'un nouveau capteur CMOS de 24 mégapixels, a priori sans stabilisation. Ça va peut-être être le point négatif, surtout pour les vidéastes. Avec un autofocus 525 zones. 16 frames par seconde avec un viseur optique et 20 frames par seconde avec le viewfinder. Gestion du format HEIF 10 bits comme sur l'iPhone. Donc du 10 bits en interne, de la 4K 10 bits 422 en RAW a priori en interne. Bon, attention, hein, c'est un boîtier monstrueux, donc ils ont de la place pour refroidir tout ça. Deux slots CF Express, du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc, que du bon. Ça peut être un appareil très, très intéressant. Alors, bien évidemment, un boîtier à 6 000, 7 000 euros, c'est vraiment pour les professionnels pour qui c'est un outil rentable. Mais ça veut dire quand même que si Canon met ses technologies dans son haut de gamme, elles vont petit à petit s'écouler sur la gamme des EOS R et les autres 5D. Donc on peut garder espoir que Canon ne bride pas ses prochains appareils, surtout en termes de vidéo. Voilà, voilà. On continue et on va parler d'une chose. J'aimerais bien que mon invité arrive. Je ne sais pas s'il écoute l'émission, mais il est un petit peu en retard. Donc, je vais être obligé un peu de traîner sur la... Ah, il est là. Donc, on pourra enchaîner. J'ai une dernière news à vous donner, extrêmement excitante pour moi et les vidéastes qui aiment l'iPad. Installe-toi, fais-toi un thé, je t'appelle tout à l'heure. Hein ? Une nouvelle extrêmement excitante pour ceux qui aiment l'iPad et ceux qui aiment la vidéo. Je vous le fais en bref, mais c'est un plaisir personnel. La nouvelle version de LumaFusion est sortie avec des choses que j'attendais avec impatience. Et la chose que j'attendais avec impatience, c'est la gestion des disques durs externes. Gestion des disques durs externes directement dans LumaFusion. Ça va devenir peut-être une plateforme, effectivement, de montage vidéo viable, l'iPad. Jusqu'ici, c'était viable. LumaFusion marche bien, mais il y avait encore cette limitation qui nous empêchait de travailler directement. On pouvait lire des infos d'un disque externe, mais on ne pouvait pas travailler sur un disque externe avec LumaFusion. Là, ça va être le cas. C'est vraiment une grosse news. Il y a d'autres nouveautés, hein, la gestion des polices de caractère externes. On va pouvoir aussi avoir des nouveaux blend modes pour faire du blending d'images. Les ratios d'images et les résolutions des nouveaux iPhone et de nouveaux iPad ont été ajoutés. On va pouvoir exporter à Weibo. Nous, on s'en fout, mais pour le marché chinois, c'est hyper important. Bref, plein de nouveautés dans cette LumaFusion 2.1. Je crois que la mise à jour est déjà disponible. Si vous n'avez pas LumaFusion et vous vous intéressez au montage sur iPad, il vous en coûtera $30 hein, pour l'application. Et elle vaut vraiment le coup. Moi, très honnêtement, mon souhait le plus cher, c'est qu'Apple rachète Luma et nous en fasse un Final Cut Pro spécial iPad. Pour moi, LumaFusion a tout pour devenir pour remplacer iMovie sur l'iPad. C'est vraiment... Bon, alors, c'est pas un logiciel pour débutants. Donc, je pense que iMovie resterait le logiciel de montage pour débutants. Mais LumaFusion, c'est un outil extrêmement puissant sur l'iPad et je pèse mes mots. Voilà, c'est la fin du Kawa. Il était dense. J'espère que vous n'êtes pas étouffés. Hein, moi, j'ai failli. On va terminer, avant effectivement que notre invité nous rejoigne, en parlant, ne bouge pas, en parlant de notre sponsor. Notre sponsor, c'est Shadow. Et j'ai deux annonces très importantes à vous faire autour de Shadow. La première, c'est que nous avons un gagnant aujourd'hui, un gagnant du mois gratuit de Shadow. Et c'est même pas un gagnant, c'est une gagnante. C'est une gagnante et je recherche son tweet que je vais vous donner tout de suite. C'est Caroline. Caroline qui a gagné aujourd'hui son mois de Shadow gratuit et Caroline qui nous dit « Je veux gagner un mois de Shadow PC pour pouvoir jouer sur mon PC portable sans avoir de tours qui prennent toute la place. » Le mug Nowtech, Shadow France, Nowtech TV. Merci à Shadow et merci à Nowtech. Eh bien, écoute, Caroline, je t'ai envoyé ton code pour que tu puisses activer ton Shadow gratuit. Si vous aussi, vous voulez gagner un mois de Shadow PC gratuit, c'est très, très simple. Il suffit de suivre le Twitter de Shadow et de composer un tweet dans lequel vous mettez le hashtag Shadow PC, le hashtag le mug Nowtech et vous nous dites ce que vous comptez faire comme jeu, comme application sur votre Shadow PC. Et tous les vendredis, je tire un gagnant au sort. J'ai une deuxième news à vous donner sur Shadow et elle est extrêmement intéressante. Il va y avoir une grosse annonce de la part de Shadow. C'est le 29, c'est mardi prochain. Ce que je peux vous annoncer aussi normalement, c'est que tout de suite après leur annonce, nous aurons une vidéo sur la chaîne principale pour vous résumer un petit peu cette annonce Shadow. Ça promet du lourd, je peux pas vous en dire plus, voilà. Mais si vous intéressez au Shadow PC, ou même si vous intéressez pas au Shadow PC, mais ça vous intéresse de voir ce qu'ils vont annoncer, eh bien, rendez-vous le 29. Ils vont normalement faire un live le matin. Ça va se passer le matin. J'ai plus les horaires en tête. Suivez sur le Twitter de Shadow France. Shadow, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un PC de gamer sur le cloud, un PC à puissance déportée. C'est le partenaire de notre émission et on les remercie énormément. Et avant de perdre complètement mon souffle, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous avons un invité aujourd'hui. C'est votre vilaine sorcière préférée. Vous le connaissez tous. Et on passe à la rubrique Entre 4 œufs. Hop. Et voilà notre vilaine sorcière préférée. Oui, ça tient pas très bien, l'aîné. Alors attends, on va repositionner le micro et tout. Hein, on va faire les choses bien. On va prendre le temps.
Bonjour les petits enfants.
Voilà notre Albert, votre sorcière préférée. Attends,
comment allez-vous?
Je vais me déguiser aussi. Hein. Il y a pas de raison.
Tu te souviens, l'année dernière, on avait fait un... Ça te va bien?
Bah oui, ça te va très bien. Je fais très bien la sorcière. Attends, on a des faux mentons aussi,
oui,
normalement.
Oui, mais tu te souviens, l'année dernière, on avait
ça, ça tient pas, les faux mentons. Surtout avec la Barbie. Avec... Ah, quoique... Ah, ouais. Ah, merde.
T'as réussi. Hein.
Attends. Hop.
Test alors, produit.
Pourquoi on se déguise? Parce qu'on sera pas là à Halloween.
Non, donc on sera pas là.
On sera pas là. C'est Guillaume, normalement, qui fait le mug d'Halloween. Mais comme Albert adore se déguiser et qui m'a fait un caprice hier, j'ai dit, écoute, viens dans l'émission. Hein. Non, plus sérieusement, Albert, si je t'ai fait venir dans l'émission ce matin, vous avez le budget accessoire. Ah ouais, non, on y allait à fond.
Bonjour, hein. Albert.
Ils ne tiennent pas les nez. Hein.
Non, ils tiennent.
Moi, ça tient. Ouais, mais en fait, c'est parce que j'écarte mes narines. Tes muscles de narines, fais-les fonctionner. T'écartes un peu tes narines et ça tient bien mieux. Voilà. Ouais. Ah, tu vois Bref.
Mais j'ai un petit nez.
Hein, sinon, on peut les mettre à l'envers aussi.
Ah ouais.
Ah ouais. Là, je ressemble à un vilain elfe. Un elfe malfaisant. Bref. Si on arrêtait un petit peu... On a des choses quand même très importantes à vous dire. Vous savez que dans pas longtemps du tout, c'est le salon de la photo. Et on a beaucoup d'annonces à vous faire. Et puis, on va parler un petit peu, Albert, on va profiter que tu sois là pour parler un petit peu de manière générale du marché de la photo. Mais d'abord, on a énormément d'annonces à vous faire autour du salon de la photo. Donc, on va vous les faire. Le salon de la photo, c'est du 7 au 11 novembre.
Ah ouais?
Donc, c'est bientôt. On est le 25 hein, ah, octobre. Ça arrive à grands pas.
Salut.
Alors, plusieurs choses à vous dire. Il y aura un stand de YouTubeurs au Salon de la Photo cette année. Je vais certainement en oublier, mais vous y verrez Olivier Schmitt, vous y verrez Sébastien Roignan, Sylvain Lepoutre, Grain et plein d'autres.
Explique-moi encore. Aladdin Jamal.
Il y a qui d'autre de confirmer, je ne sais plus.
Je crois que Benjamin Tantôt sera là aussi, derrière la caméra. Il y aura aussi... Ouais. Paul de la vidéo tout simplement.
Tout à fait.
Ouais.
Bref, donc il faut venir nous voir tous les soirs du Salon de la Photo. Tous les soirs du Salon de la Photo à 17h, c'est là où on organise les meet-up. Donc si vous nous croisez dans le salon et que vous êtes là à 17h, venez plutôt nous voir à 17h. Ouais. Chaque année, je donne ce message. C'est que souvent, nous, on est en train de travailler pendant la journée. On n'a pas le temps de discuter correctement avec vous. Il vaut mieux, si vous voulez un peu prendre le temps, surtout que cette année, on devrait avoir une machine à selfie. Ça va être super sympa.
Moi, je suis quelqu'un de très antipathique dans la vraie vie. Ouais. J'ai l'air très sympathique comme ça en vidéo, mais dans la vraie vie, je mords.
Et il a un vrai nez comme ça, en fait. Vous croyez que ça...
Je te mets des coups de nez comme ça.
Voilà, au salon de la photo, c'est...
Pardon, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame, laissez-moi passer.
Et donc, tous les soirs à 17h au salon de la photo, rendez-vous... alors, en tout cas, pour Stéphane Couchou et Hardis, je ne sais pas s'ils viennent au salon de la photo, ils ne nous ont pas dit.
Non, il ne m'a pas dit, Henri, s'il venait ou pas. Mais je pense qu'il sera là, ça le fait marrer.
Ouais, on vous tiendra au courant. En tout cas, 17h sur le stand YouTubeur, sachant qu'il y aura, on vous annoncera au fur et à mesure, il y aura aussi d'autres trucs qui vont se passer hein, sur le stand YouTubeur. Sébastien Roignan viendra vous parler de certaines choses. Nous, on fera peut-être avec Olivier et Albert, justement, une table ronde comme on avait fait l'année dernière. Pour l'instant, c'est prévu le samedi. On verra si on l'a fait. Une table ronde sur le matos. On vous informera de tout ça. Ce qu'on vous informe également, c'est que Albert et moi, on sera sur le stand Nikon deux fois pendant le salon de la photo. Donc, notez bien, on y sera le vendredi à partir de 16h sur le stand Nikon pour vous parler, alors moi, de mon expérience avec le Z6 sur la chaîne YouTube. Vous savez que ça fait un mois et demi que j'utilise le Z6 de Nikon sur la chaîne YouTube en complément de mes autres caméras. Donc, on vous expliquera ça et on vous l'expliquera aussi le samedi. Le samedi, ça sera à 13h sur le stand Nikon. Donc, le vendredi à 16h et le samedi à 13h, 1h. Voilà. Hein. Venez manger votre sandwich en nous écoutant.
J'espère que vous avez tout noté parce qu'il y a un terreau à la fin de la vidéo. Hein.
Ah oui. Non, mais je vais vous bassiner toute la semaine prochaine sur le salon de photo. On a une autre info hyper importante, Albert. Le samedi soir, on fait un meet-up, même si vous n'êtes pas au salon de la photo, mais si vous êtes sur Paris, on fait un meet-up, on va avoir de la place, on aura une salle privative, il n'y aura pas du bruit comme l'année dernière.
Non.
Je sais que l'année dernière, ça avait été mal organisé, c'est ma faute. Le pub était trop bruyant, on a eu du mal à discuter, mais là, on aura une salle privative, on aura plein de places. Donc, venez, faites pas les timides.
Ouais, parce qu'on a une salle de 350 personnes.
350, je crois, et 300.
Non, 350.
Ah bon ?
Ouais. On peut accueillir jusqu'à 350 personnes.
On va un peu flotter. Hein.
Ouais.
Ouais. Bon, vous inquiétez pas.
On va mélanger un peu les genres. Il y aura la communauté de Jérôme, il y aura la communauté de SOS. Il y a d'autres personnes qui vont
jouer. Sébastien Roignan a confirmé. Olivier, peut-être.
Donc, ce sera un beau moment d'échange et de partage entre nous. On ne sera pas simplement là pour parler
Henri,
matos.
Normalement, est là avec Vertige. Ils seront là, en tout cas, au meet-up.
C'est chouette.
Donc, c'est le samedi soir. Il faut vous inscrire sur l'event Facebook qui est sur le Facebook de Nowtech. Il faut vous inscrire et nous dire si vous venez. Vous y trouverez l'adresse. C'est un bar qui est à côté de Gare du Nord. On se donne rendez-vous à 8h, mais vous pouvez arriver un peu avant. En gros, on se donne rendez-vous après le salon de la photo. Il y aura à manger, il y aura à boire. Je vous ai même mis les menus pour que vous prépariez vos sous pour ce soir-là. Je précise quand même que si vous êtes mineur, vous devez venir accompagner.
De vos parents.
Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans le bar.
Parce qu'ils servent beaucoup d'alcool.
C'est important. On vous parlera aussi de Nikon ce soir-là, parce que nos amis de Nikon nous aident pour faire cette soirée-là.
Tout à fait.
Donc, peut-être des trucs cool à vous annoncer. Voilà. Hein. En tout cas, il y aura des trucs cool. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des gens cool. Si t'as pas Facebook, tu crées Grégory un faux profil. Juste, nous, il faut juste qu'on sache qu'il y a une personne qui vient. Crée-toi un faux profil Facebook très rapidement. Tu mets que des fausses infos là-dedans et tu t'inscris à l'event. Nous, c'est l'info, ça nous suffit. On n'a pas besoin de savoir que c'est toi, Grégory,
qui vient à l'event. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas.
On fait une soirée à thème, comme ça, les gens viennent déguisés. Animaux de la forêt.
Albert, si tu veux venir...
On fait un safari photo à l'intérieur. Ce serait génial, putain, regardez. On vient tous déguisés en animaux et ensuite on fait un safari photo dans la boîte de nuit.
Alors, moi, ce que je te propose, Albert...
C'est génial.
Non, j'ai une meilleure idée. Tu viens déguisé en animal et on te chasse toute la soirée. Tu vois, c'est l'animal traqué. Ça te plaît, hein?
Je sais pas.
Bon, en tout cas, votez si vous voulez qu'Albert vienne déguiser. Hein, vous lui envoyez.
Envoie Albert au 10-15-15. Seulement 34 centimes d'euros la minute.
Envoyez des messages sur l'Instagram d'Albert pour qu'il vienne déguiser le soir du 9. Surtout là, ça va me faire marrer. Ça va être toute la journée. Tu vas devoir trimballer ton déguisement au salon de la photo.
Je sais
que t'en es capable.
Je l'ai fait. Je l'ai fait en licorne.
Oui.
Je l'ai fait en licorne pour la sortie du S1.
Donc, si vous voulez que Albert soit déguisé, eh bien, voilà, vous n'avez plus qu'à voter sur l'Instagram. Également, le dernier truc que je voudrais dire, on a bien évidemment, comme chaque année, des places gratuites pour le salon de la photo. Suivez bien Nowtech sur les réseaux sociaux, donc Nowtech sur Twitter, Nowtech sur Instagram et sur Facebook. Je pense que je ferai gagner les places gratuites sur les réseaux sociaux. Cette semaine, il faut juste que je m'en occupe, donc il faut que je trouve le temps de m'en occuper. Après... Entre nous, c'est très facile d'avoir des places gratuites pour le salon de la photo.
C'est extrêmement facile. Tu tapes place gratuite sur Google.
Si vous êtes le mec qui paye le salon de la photo, vous êtes le seul. On va pas être méchant, mais c'est vrai que les places, c'est très facile d'en avoir.
D'en avoir. N'importe quel magazine que tu achètes, photo, vidéo, il y a des places dedans. Enfin, tout le monde en a. Je pense que si tu les appelles, ils t'enfilent.
Alors, Kev, je te réponds tout de suite, même si ta question aurait été mieux dans les cornfac qu'on va faire tout à l'heure. Est-ce que tu as vu la nouvelle vidéo de Stéphane Cochou, son nouveau Parallax 2?
Ah, le Parallax 2, non?
Ouais, moi j'ai vu.
C'est bien?
C'est du Stéphane Cochou. T'en prends plein les mirettes.
Ouais.
Après, si moi j'ai juste un reproche à faire, c'est que...
Ça c'est français, ça va tout de suite
un reproche. Non, c'est pas ce que fait Stéphane, c'est que... C'est une démonstration technique,
ouais.
Mais c'est incroyable. Les plans en drone FPV, hallucinant. Mais je serais Disney, j'embaucherais Stéphane pour faire une attraction, quoi. Il y a des plans en drone FPV, mais de dingo. En fait, son truc est complètement... C'est Stéphane. C'est tout à fait Stéphane. Tu ne respires... En fait, tu regardes sa vidéo et t'es là. Et tu retiens ton souffle toute la vidéo. Et à la fin de la vidéo, tu fais... Tu vois, un peu comme un tour de manège. C'est vraiment un tour de manège, en fait, les vidéos de Stéphane.
J'ai pas eu le temps, là. Je suis en train de tourner un truc depuis hier soir.
C'est un boulot monstrueux hein, qu'il fait. Bref, on en reparlera pendant Stéphane, les cornfacts, si vous voulez. Ah oui, c'est un fou, mais c'est un malade. Hein. Ouais. Il le dit lui-même, hein. On peut le dire. C'est un malade. Stéphane, tu es malade. Il faut te faire soigner. Je sais pas si tu te rends compte, mais on est avec l'autofocus du GH5 depuis tout à l'heure.
Ça marche, hein?
Non, en fait, non, pas vraiment. Là, je pense qu'en plus, avec des toiles d'araignée au milieu et alors deux visages, on ne doit pas souvent être net. Mais bon, on va dire que c'est acceptable. Très rapidement, parce qu'on va rapidement passer au fac, Albert.
Oui, oui, Jérôme.
On a un marché de la photo. Justement, les gens qui ont suivi notre émission l'année dernière,
oui,
où on parlait de la guerre des full frame.
Oui.
On est en plein dedans.
On est en emploi.
Et les pronostics que tu avais donnés un peu l'année dernière, qu'on avait donné l'année dernière, je ne veux pas donner toute la couverture à César non plus, c'est que le marché de la photo tellement bouffé par les smartphones se concentre sur le haut de gamme.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'en dessous de 1 500 €, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des choses, quand même. Il y a des produits, on va dire, entre 800 et 1000 euros. Mais là où il se passe des choses, des vraies innovations, c'est sur le très haut de gamme. Le marché est tiré vers le haut. De toute façon, tout le bas du marché est complètement bouffé par les smartphones.
Complètement. Et tu as toute cette gamme d'APS-C qui se cannibalise entre Fuji, Sony, Il y a Nikon qui a sorti un Z50, qui sont à peu près sur cette même gamme de prix entre 700 et 1100 euros.
Ça confirme en tout cas un truc que je dis depuis 4 ans, en dessous de 800 euros, gardez votre smartphone.
Oui, ouais, ouais.
Pour moi, il n'y a rien de vraiment intéressant dans la photo, en appareil dédié. Votre smartphone fait mieux aujourd'hui. Et des smartphones à 800 euros font, je trouve, de meilleures photos que des boîtiers à 800 euros, avec objectif compris.
Ah oui, les, ouais. Comment ça s'appelle ça, les trucs avec les...
Oui, les, ou les compacts. Alors, ah bon, il y a l'exception.
Les compacts, c'est complètement terminé. Enfin,
bah, ils en vendent encore. Mais même le RX100. Bah, parce que les gens...
Ouais, le RX100 n'est pas...
En fait, il y a toujours cette croyance que d'avoir un appareil photo dédié va te faire faire des vraies photos. Et qu'un smartphone ne fait pas des vraies photos.
Ouais.
On avait fait une émission là-dessus au Salon de la Photo l'année dernière.
Moi, je ne savais pas qu'il y avait des vraies et des fausses photos. C'était ma première
réaction. C'était la réponse d'Albert. Mais je le vois, hein, c'est ancré dur comme fer dans la croyance des gens. C'est pas une vraie photo si j'ai pas un appareil photo dédié.
Okay.
Vous avez tort. Sébastien Rognan vous le disait, une photo, on peut faire ça avec une boîte de Pringles en faisant un trou dedans et en mettant de la péloche de l'autre côté. Donc la photo ne se définit pas par l'appareil qui l'a faite.
Non.
Oh, c'est beau ça.
Ouais.
Une photo n'est pas définie par l'appareil qui l'a faite.
Jérôme Kenborg 2019. Retrouvez tous les jingles de Jérôme dans un calendrier exceptionnel.
Votre sorcière préférée. Votez pour votre sorcière préférée dans la chatroom, hein. On vous attend, team Albert ou team Jérôme. Et attention, c'est moi qui ai le doigt sur le bouton arrêt de l'émission.
Venez donc, prendre des réductions spéciales chez SOS.
Je ne veux pas conditionner votre vote, mais sachez que si vous votez trop massivement pour Albert, je coupe l'émission. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est pas grave, on la fera sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il y a là, Didi, il est là.
Bref, aujourd'hui, je crois que l'appareil photo dédié, c'est quand tu as un usage dédié.
Non, mais c'est surtout que de plus en plus de constructeurs, mis à part des récalcitrants, se concentrent sur le marché de la vidéo. Sony est à balle dedans depuis des années en mettant toutes les fonctions vidéo dans ses boîtiers. Nikon rentre très fort dedans et a une volonté féroce de vouloir s'arracher en vidéo. Canon reste extrêmement frileux sur le marché de l'hybride et de la vidéo.
Alors, je viens de parler du 1DX avec ce qu'ils annoncent d'embarquer dedans. On a l'impression que là, pour le coup, Canon ne retient pas. Bon, en même temps, le boîtier est à 7000 euros.
Voilà,
c'est
le prix d'une caméra.
Ouais.
Non, ils ne vont pas se retenir sur un index. Et d'autre part, les gens qui font de la vidéo sont prêts à investir beaucoup plus dans leur boîtier qu'une personne qui fait de la photo. Il faut comprendre la logique de Canon aussi durant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il y avait des études où on disait avec quoi étaient shootées les photos sur les blogs, WordPress, machin, etc. Et Canon était en tête depuis très très longtemps. Et c'est Canon qui reste en tête sur la photo. Donc, ils ne vont pas laisser tomber leur cœur de niche, leur marché préférentiel, là où ils sont porteurs, pour se concentrer sur un marché où Sony, pour l'instant, domine le game. Quoi.
Alors, justement, pour te répondre, Nicolas, tu demandes le M50, le piqué n'est pas mieux sur un smartphone. Ce que je vais te dire sur le M50, pour l'avoir testé pour la chaîne.
C'est que ton autofocus ne marche pas, là.
En même temps, hein, l'autofocus chez Panas, c'est quand il veut. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un appareil comme le M50, je pense aussi au Z50 chez Nikon, etc. C'est
appareil le plus vendu au Japon. Hein.
Ouais, le M50.
Ouais, l'un des appareils les plus vendus.
Si cet appareil, tu le mets dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas utiliser un appareil photo, ça va être déceptif. Le gain de qualité par rapport à un smartphone ne va pas être énorme. C'est-à-dire, je te parle d'acheter un M50 avec un objectif de kit, et je vais même te dire pire. C'est que ces appareils photo dédiés sont beaucoup moins intelligents que les smartphones. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de ce qu'on appelle le computing photographie. Ils ne vont pas arriver à te détecter les hautes lumières, les basses lumières. Ça va te donner des meilleures photos qu'un smartphone à partir du moment où tu sais l'utiliser, tu sais ce que tu veux. Mais les modes automatiques sur ces appareils-là, et même sur les appareils photo haut de gamme, les modes automatiques sont catastrophiques par rapport aux smartphones. Les smartphones compensent leur faiblesse optique et de capteur par des ressources informatiques incroyables. Et aujourd'hui, pour un débutant et un amateur, tu auras des meilleures photos sur un smartphone qu'avec un M50 que je te mets dans les mains comme ça sans rien t'expliquer. Voilà.
Oui, puis Voilà, ça, moi je suis toujours en train de dire ça, tout dépend de ce que vous voulez faire avec, avec vos photos ou avec vos vidéos. Moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui connaît bien la photo et je travaille qu'avec des gens qui font ce métier pour vivre. Alors c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent me poser des questions sur ouais, quel appareil je dois acheter et puis ils me donnent des noms de boîtiers que je n'ai jamais utilisés, des 80D, des 7D, des
choses comme ça. Là moi je peux répondre, mais après moi quand on me pose des questions par exemple sur les compacts, ouais, les compacts ça fait longtemps que je ne m'y intéresse plus.
Tout ce que je peux dire et le seul et voilà le seul conseil d'achat que je donne et celui que je répète depuis que je martèle depuis longtemps c'est que le boîtier aujourd'hui et depuis tout le temps c'est quelque chose qu'on va changer tous les ans tous les deux ans. Vous savez combien ça vaut une Red One aujourd'hui? Ça vaut 3000 balles. Une Scarlett vous pouvez en trouver à 4000 balles quand c'est sorti, ça valait 25 000 euros.
Ouais,
tu vois, c'est des caméras qui ont 4-5 ans. La dégringolade est folle furieuse. En revanche, il y a des séries d'optiques qui ont pris de la valeur. Et vraiment c'est là-dedans que vous devez vous mettre de l'oseille. Et si vous voulez vous équiper, que ça soit en photo et en vidéo, et surtout en vidéo, commencez, démarrer avec une optique fixe et mettez de l'oseille dans votre premier, dans votre premier objectif.
Et je terminerai ce petit panel pré-salon de la photo en vous disant quand même une chose essentielle, mais je vous le rabâcherai jusqu'à ce qu'on me coupe la chic et que j'arrête la chaîne YouTube. C'est que si vous voulez progresser en photo, c'est pas votre appareil qui vous fera progresser.
Non, c'est la lumière.
Vous pouvez... En vidéo, c'est beaucoup la lumière, mais en photo, mais même en vidéo, n'oubliez pas les choses les plus importantes, le choix du sujet, qu'est-ce que je prends en photo, qu'est-ce que je vais filmer, c'est ça qui rend une photo intéressante, et ensuite le cadrage et la composition. En vidéo, on rajoutera les mouvements de caméra et la lumière, une certaine gestion, et ça, vous pouvez le faire avec un smartphone. Vous progresserez 10 fois plus en photo en faisant ce que je vous dis, en bossant votre choix du sujet, votre cadrage, votre composition, plutôt qu'en vous achetant un boîtier dédié.
Les tutos de Jérôme Kenborg. Hein? Retrouve Jérôme et ses tutos tous les vendredis.
La question la plus inutile qui existe au monde en photo, c'est les gens sur Instagram qui me disent « Elle est belle ta photo, c'est quoi ton appareil photo ?» Cette question ne sert à rien.
La drôle d'humeur de Jérôme Kenborg. Retrouve-le tous les vendredis.
Bref, voilà, c'était effectivement, on a pro...
Il y a des belles annonces en optique qui arrivent au salon de la photo, voilà.
Voilà, le salon de la photo va être intéressant cette année. Il va y avoir plein de choses à dire. Venez nous rejoindre donc sur le stand des YouTubers au salon de la photo, on y sera. On a profité effectivement de ce module entre 4 œufs, le module de l'invité, pour... Arrête de faire le zouave à côté de moi pour essayer de retenir l'attention des gens alors que je suis en train de parler, Albert.
Pardon, papa.
Bon. Non, mais je suis obligé de sévir. Hein. Il y a des invités comme ça qui sont insupportables. Hein. Et si vous saviez où il avait mis son faunet tout à l'heure, et tu crois que je vais me remettre ça sur le pif après que tu aies mis tes doigts dedans, là? Bref, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. On est très en retard. Enfin, ça va encore.
Oui,
là,
Et
oui, non, mais le vendredi,
ah oui, le vendredi
Samuel, il a pris de la tisane. Là, il va nous laisser 10 minutes de plus, hein, Samuel. Et on va passer au camp de fac. Profitez de la présence d'Albert si vous avez des questions à poser en vidéo. C'est maintenant qu'il faut le faire et c'est maintenant dans les camps de fac.
Le camp de fac!
Et oui, pas de petit déjeuner complet sans les camps de fac. C'est vos questions, c'est nos réponses. On profite également de la présence d'Albert qui va arrêter de lire ses SMS pendant l'émission. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il y a une question Platinium ce matin? Samuel, du coup, on a tué Samuel, il ne veut plus me répondre, il me fait
non,
la gueule.
Non, Samuel revient.
Je ne sais pas s'il était là ce matin. Ça. J'ai pas... Vu que j'ai le feu
de
ce matin, j'ai pas
il y a plein de gens
Samuel.
Qui ont mais il y a plein, non, il est là. Il y a plein de gens qui ont dit plein de choses.
Alors, les questions, on va les prendre à fur et à mesure. Si on rate votre question, vous la reposez. Quelles alternatives au Sling 5 litres de Peak Design conseilles-tu?
Ah non, mais
le
voilà,
10 litres.
Voilà.
Il y a une alternative au 5 litres, c'est le 10 litres. Voilà.
Non, mais il y a d'autres marques
non,
de 5.
Non. Ils font pas des sacs. Ils font des trucs qui permettent de transporter des choses, mais c'est pas des sacs. Désolé, je deviens agressif. Je suis apparu dans le jeudi VIP, d'accord. Oui, si vous voulez voir la tête de Samuel, faut suivre le jeudi VIP qu'on a fait à Pornic. Ça, j'ai déjà lu. À quand un remplaçant Pana du GX80, il est magique. C'est vrai que le GX80 est un très bon appareil. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils annoncent un truc cette année, Pana, de ce côté-là, GX. GH6, je pense que c'est un an trop tôt.
Non, non, mais là, ils viennent de sortir le S1, le S1H.
Le S1H, surtout.
C'est pas non plus... ça a coûté beaucoup d'argent, hein, c'est des boîtiers en recherche et développement. Ouais. Faut qu'ils se vendent maintenant, et c'est pas...
Un avis sur les Sony 24 mm f1.4 ou le... Est-ce qu'il faut prendre le Sony 24 mm f1.4 ou le Sigma?
Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est pas du tout les mêmes optiques, en fait. Ils ne sont pas construits pareil, ils ne sont pas pensés pareil. Le Sigma est quand même très, très, très lourd. Optiquement, le Sigma, il va être plus sharp. Mais je crois que je préfère la colorimétrie du Sony. Je suis en train de faire des petits tests intéressants de colorimétrie d'optique en ce moment. On en reparlera. Ce qui est intéressant sur le Sony, c'est qu'il est plus léger et tu as la bague de diaph qui est directement déclicable sur l'optique. Donc pour la vidéo, je pense que je préférerais le Sony.
On va essayer de faire des réponses plus courtes, Albert.
Ouais.
Je tiens à dire que je n'aime pas les youtubeurs, mais je trouve que vous êtes super sympa. Parce qu'on n'est pas des youtubeurs, on est vidéastes.
Dualité.
Et Albert, il est comique anniversaire, ouais. Bar mitzvah.
Pour tous vos anniversaires, comique, bar mitzvah, mariage, bouquez-moi, je suis Albert.
Et il vient avec ses costumes.
Je viens déguisé. Et je vous fais des tours de magie.
C'est quand la prochaine mise à jour WatchOS, ça je sais pas. iOS, c'est très bientôt la 3.2. Albert, comment tu as trouvé ce local génial pour SOS Ciné? Tiens oui, comment t'as fait pour retrouver les locaux de SOS Ciné?
J'étais dans un autre bureau à Marx-Dormois et puis à l'époque je faisais des petites captations, c'était il y a très très longtemps, hein. On était en 2011-2012. Et je fais une captation de concert un jour à un mec, je sympathise au bar avec l'ami, et j'arrive ici dans son studio où il faisait de la Zikmu, et puis après je suis plus jamais reparti.
C'est un peu ce qui s'est passé pour moi et ouais. L'atelier aussi. Albert, il m'a montré où il bossait, et j'étais là, ok, ouais, t'es un copain, et comment on fait pour avoir un atelier? Qu'est-ce qu'il y a?
Pardon, Jérôme?
Oui, je t'ai utilisé. Mais on s'utilise.
Oh putain.
Je t'ai manœuvré pour avoir un atelier en fait. Mais tu t'en étais pas rendu compte?
Ah mais moi je suis candide moi.
Ouais, t'es candide. Je voulais
Je voulais un papa moi.
Si vous saviez. Une alternative au Sling 5 litres. Ah, j'arrive pas à lire ce que t'as écrit en dessous. Non, Billingham, c'est...
Posez vos questions, non, mais je ne les lis pas. Oui, alors, je vous écoute.
Billingham, c'est une bonne marque de sac pour pêcheurs. C'est vrai qu'à l'origine, c'est des sacs de pêcheurs, hein, Billingham. Avant d'être des sacs photos, c'était des sacs de pêcheurs. Faut le savoir. S'il y a une petite odeur de poisson dedans, faut pas s'étonner. À quand un boîtier pro à monture RF chez Canon?
Je sais pas.
Alors là...
Attends, mais un boîtier pro... Non, mais c'est une boutade. Le OSR, c'est un boîtier pro, non?
Non, la monture RF.
C'est quoi la monture RF?
Chez Canon, le RF, je sais pas, moi... Je connais pas les montures.
Mais si, la monture
R. Ah, la nouvelle.
Bah oui,
le R. Il est pro, le R, non?
Bah ouais, il est super pro, ouais. Bah pour la photo, c'est un putain d'appareil photo. Non, mais Canon, ils sortent des bêtes d'objectifs, après...
Ouais, les objectifs, là, les nouveaux objectifs qu'ils ont annoncés, ils trouent leur merde.
Ah ouais, ils sont beaux.
Voilà. Merci beaucoup pour ton super chat, Reziac. Merci beaucoup. Un avis sur le Pixel 4 XL. Écoute, je ne l'ai pas testé. Je suis pas sûr de tester les pixels. Le lancement en France est extrêmement bizarre. Il le lance que en une couleur. A priori, il n'y a que la version 64 Go. Les reviews que j'ai vues sont pas très bonnes. Je sais même pas si j'ai envie de le tester, le Pixel. On verra. Mais en tout cas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu avant de sa sortie. Donc, je ne l'ai pas testé. Donc, j'éviterai de répondre. Mais on va dire que les opinions ne sont pas très bonnes. Peut-on poser des questions iPad? Oui, bien sûr.
Vas-y.
Tu peux poser des questions sur tout.
Sur tout ce que tu veux.
Vous avez des infos quant à la légende de la sortie de l'Alpha 7, l'Arlésienne de...
Once upon a time.
Il existait. Ils vont sortir le 4.
In all medieval Japan.
Alors, moi, mon hypothèse, après tu donnes la tienne.
Ouais.
Sony a du mal à garder un boîtier aussi petit en essayant qui aurait les mêmes fonctionnalités que la concurrence.
C'est complètement
impossible. Ils ont un problème de dissipation thermique qui fait qu'ils sont obligés de retarder le boîtier. Et à mon avis, ils sont mal là. Sony, ils sont mal.
Moi, je pense qu'en fait, ils l'ont fait. Et puis, ils se sont dit, on est en train de faire une connerie, faisons le R, faisons l'Alpha 9 d'abord. Je sais qu'en ce moment, Sony est en train de se renseigner sur les vidéastes. Ils sont en train de faire une grosse étude. Ça ne va pas sortir tout de suite.
Ouais. Jérôme, un logiciel de montage pour des nuls comme toi. Écoute, ce n'est pas parce que tu es nul ou que tu n'as jamais fait que je ne te conseillerais pas un logiciel pro. Moi, je ne savais pas faire de montage et j'ai attaqué directement avec Final Cut
ouais,
Pro.
C'est super simple.
Si tu as un Mac, tu peux faire ça.
Ouais. Et si tu n'as pas un Mac, achète un Mac.
Tu partiras sur de bonnes bases. Sinon, voilà, première. Moi, je ne suis pas du genre à conseiller des logiciels de montage débutants avec des filtres automatiques et tout, parce que tu vas prendre des mauvaises habitudes.
Alors, si jamais tu prends en première, tu prends aussi... Tu as un médecin traitant pas loin, tu lui demandes du Prozac et du lithium.
Ouais, c'est méchant. Bon, mais c'est vrai. Non, si tu as un iPad, par contre, je te conseille vraiment LumaFusion. C'est une très, très bonne manière de commencer le montage. Oui. Osmo Mobile 2 ou 3. Écoute, le 3, il est vraiment pas cher. Il est à 100 euros. Il est bien. Je viens de sortir une vidéo hier sur l'Osmo Mobile 3 avec la vraie question. Est-ce que vous avez encore besoin d'acheter des stabilisateurs externes pour smartphone? Une vraie bonne question avec une vraie bonne réponse sur la chaîne. Je suis très content de ce qu'on a fait.
Ah ouais,
ouais, je me jette des fleurs. Samsung Galaxy Note Plus ou iPhone 11 Pro Max, le choix est difficile. Finalement, ton choix, c'est Android ou iOS. Je vais te répéter mon vieux mantra que je répète depuis 5 ans. iOS, c'est très bien, mais t'es pas très libre. C'est comme une chambre d'hôtel. Android, t'es comme chez toi, mais parfois, c'est un peu le bordel. Les choses restent vraies, même si elles sont moins vraies qu'il y a 5 ans, puisque iOS, c'est un peu ouvert, et Android, on va dire, c'est un peu est devenu un peu moins bordélique. Mais globalement, ton choix, c'est ça. Après, en termes de hardware, je trouve que le Note Plus et l'iPhone 11, ça se vaut à peu près. Si tu veux faire beaucoup de vidéos, je te conseille quand même plutôt l'iPhone 11. Au niveau photo, Diffusion est bien, mais bon. Est-ce que le 18-35 Sigma est un bon choix? Oui. C'est un incontournable pour moi, ça reste...
Ah, le 18-35 1.8 de chez Sigma,
C'est un incontournable. C'est comme le 50mm f1.8 chez Canon ou dans toutes les marques. C'est des objectifs qu'il faut acheter à un moment. Ils te serviront toute ta vie, quoi. Ouais, LumaFusion, c'est vraiment good pour iPad. Hein. C'est vraiment un très, très bon logiciel de message. Genre, je suis presque... J'aimerais presque qu'ils sortent un LumaFusion sur desktop, en fait. Plutôt frites ou couscous?
Ni l'un ni l'autre, je suis au régime.
Non, mais si t'étais pas au régime. J'ai fait ça. Il parle de frites et de couscous, j'ai le ventre qui
gargouille. J'en sais rien, moi, ça m'excite pas. Non, là, ni l'un ni l'autre m'excite de ouf.
Ah ouais, ouais. Ouais, moi je suis plus frites quand même.
Un bon couscous avec la viande, la sauce.
Non, mais je suis pas très. Alors, j'aime.
Parce qu'en plus, là, c'est un plat complet, tu vois.
Non, alors.
Le couscous, c'est un plat, monsieur, c'est pas la
sauce. Monsieur, je ne peux pas vous permettre de dire ça.
Non, juste des frites comme ça.
La bonne frite belge avec de la graisse de bœuf, putain, c'est une tuerie.
Ouais, mais il a pas dit frites avec graisse de bœuf.
Oui, alors, moi, le couscous, entendons-nous bien. J'aime le couscous, mais le couscous, le top du couscous. Mais je n'aime pas le couscous médiocre. C'est le genre de plat. Tu vois, il y a des plats. J'ai une tolérance, par exemple, pour la blanquette de veau médiocre. Parce que j'aime beaucoup la blanquette de veau. J'ai une tolérance. Après, les blanquettes de veau dégueu, c'est dégueu. Le couscous, pour moi, il faut vraiment que ça soit parfait. Avec des trucs super frais et tout. Et là, c'est bon. Bref.
Niveau d'attention d'Albert, 2,5.
Ouais. Jérôme, tu fais flipper. Désolé. À quoi s'attendre pour l'iPad Pro 2019? Je pense qu'il sera mieux que l'iPad Pro 2018. On peut à peu près s'attendre à ça. Non, j'en sais rien. Non, sans rire, je pense que les prochaines évolutions de l'iPad... qu'est-ce qui pourrait évoluer sur l'iPad? Peut-être deux connecteurs USB-C? Soyons fous. On verra. LumaFusion fonctionne en partage familial ou achat nécessaire par contre. Oula, là tu me poses une question, je sais pas. J'utilise pas le partage familial sur iOS, donc je ne saurais pas te répondre. Quelle application est la meilleure sur iPad pour dessiner ?
Oh là là, j'en sais rien. Ouais.
Procreate, mais c'est technique. Hein. C'est une vraie app de dessin. Procreate, je crois que c'est très bien. Vaut mieux... Alors, l'iPad 2018, bien pour le dessin détaillé. Je pense de toute façon, le nouvel iPad, d'ailleurs que j'ai, il faut que je vous fasse le test. Les nouveaux iPads ou l'iPad 2018, celui qui avait avant, commencez par ça avant d'acheter un Pro pour savoir si ça vous va, même pour dessiner. N'achetez pas tout de suite un iPad Pro, achetez des iPads à 300-400€ pour voir si ça vous va l'iPad. Je ne pense pas que ça ira à tout le monde.
T'as entendu parler du Fuji XT100 ?
J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas testé.
Alors, c'est un Fuji qui est un moyen format et qui a des fonctions vidéo intéressantes comme le 4.2.0 10 bits. Le problème, c'est que c'est sublime. L'image est magnifique, mais il ne faut pas qu'il bouge d'un iota puisque le rolling shutter...
Il n'y a pas de stabilité. Ah, le rolling shutter est mortel.
Effrayant. Ça, c'est un peu con. Effrayant.
Un jour, il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo dédiée au rolling shutter. Pourquoi c'est notre bête noire. Ça serait une vidéo
la bête noire du vidéaste.
On a beaucoup de bêtes noires, mais le rolling shutter en fait partie.
Ouais, le rolling shutter, c'est chiant.
Ouais. Frit Mayo, bien sûr, ayant l'iPhone 10 et privilégiant la photo, faut-il passer à l'iPhone 11 Pro ? Alors vraiment, si tu fais beaucoup de photos, et j'aurais même tendance à dire, si tu vends tes photos, ça vaut le coup. Sinon, non, garde l'iPhone 10, attends l'année prochaine. C'est quoi les dernières news sur les sorties de Photoshop pour iPad ? J'ai pas plus de news que ce qu'en avait Marion mercredi. Donc on n'a pas de date de sortie, je sais juste que c'est en bêta. Albert, j'ai un écran
Fieldward.
Quand je mets le focus picking, toutes les lettres dans le menu deviennent baveuses,
deviennent
couleur.
Rouge. Ouais, ouais.
As-tu remarqué ça aussi ? Non, c'est normal, c'est une feature.
Alors c'est normal puisque en fait tu mets le focus picking et que dès que comme la lettre est au point, il te met ton cerclage rouge autour de la lettre, donc c'est normal qu'elle soit baveuse puisque le moniteur ne comprend pas.
Mais les autres ne le font pas.
Si si, tous les écrans qui ont du focus picking te feront ça à partir du moment où tu affiches le menu dans l'écran.
Ouais. Ah ouais.
Okay. À partir du moment où tu mets le focus picking
d'accord,
sur l'écran.
C'est le menu de ton appareil photo.
Ouais, ouais.
C'est pas le menu du moniteur.
Non,
ouais,
je
d'accord.
Crois pas.
Ok, je comprends.
Bon, si c'est le menu du moniteur chez
Keyword,
c'est des abrutis.
Ils sont un peu chiés. Quelle marque de pellicule me conseilles-tu pour ton GH5 ? Écoute, alors en argentique numérique.
Tu te souviens de cet appareil ? Il y avait eu un Kickstarter là-dessus où tu pouvais mettre des pellicules dedans et tout. Ils ont arnaqué tout le monde. Le truc était vraiment pourri. C'était juste une putain de carte mère avec un capteur de smartphone mis dessus. Et les pellicules, en fait, c'était juste un.
C'était de l'impression, ouais.
Non, c'était pas de l'impression, c'était pas des pellicules.
Ah oui.
Tu pouvais simuler une pellicule. Tu vois, tu avais fait des fausses pellicules, mais c'était grosso modo des clés USB et qui te mettaient un filtre sur tes photos. Ouais. Quoi. Ils en ont vendu je sais plus combien de millions. Quoi. C'était incroyable. Et comme cette valise au roux carré sur Kickstarter aussi. La valise au roux carré. Regardez si vous avez le temps. Il y a un mec qui a fait une pub.
On a plein de questions du coup. Mais oui, mais là, il est déjà 9h11. Oh. Il va falloir qu'on arrête. Je vais prendre une dernière question. Non, on n'a pas de date pour la conf Apple. J'aimerais bien qu'il y ait une conf Apple. Il faut absolument que j'achète un nouveau Mac. On manque d'un Mac ici à l'atelier. Ça nous freine. Et je pense que le 16 pouces, je vais l'acheter. Mais j'aimerais bien qu'il l'annonce, ce putain de 16 pouces.
J'ai eu Mac au téléphone il n'y a pas longtemps. Ça arrive. Hein.
T'as eu Mac ?
J'ai eu Apple au téléphone.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Ouais, ils m'ont appelé.
Parce que Marc, c'est pas... bonjour Jérôme, peux-tu demander à Shadow si l'appli fonctionne sur la Surface Pro 10 qui fait tourner que les applis 32-8 ou pas encore toutes ? C'est une bonne question, mais je pense, Eruko, n'hésitez pas à poser les questions directement aux marques dont on parle, parce que il y a plein de gens qui pensent que je suis le SAV de tous les produits que je présente. Ta question, elle est bien pointue. Je pense que tu auras quand même une meilleure réponse. Et tu sais, ils sont là sur Twitter pour répondre. Hein. Ils ont un groupe de gens qui sont là pour répondre à des questions.
Ils sont payés.
Donc, je te conseille de poser la question à Shadow France sur Twitter. Tu auras peut-être une meilleure réponse que d'attendre que je fasse le téléphone, enfin que je fasse le relais, quoi. Meilleur appareil photo pour un budget de 2500$ qui est à la fois bon pour les photos et que les vidéos. Après on va dire ouais mais c'est ton sponsor, enfin c'est ton partenaire, mais je trouve que le Nikon est un appareil qui est très bien équilibré entre ses fonctions photo et vidéo.
Ouais.
Voilà, c'est mon avis. objectif qu'à de le dire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé prendre des photos avec le Nikon. J'en ai pas fait encore beaucoup avec le Nikon. Et j'apprécie ses capacités vidéo qui sont à la hauteur de l'optique qui l'accompagne. C'est pas une caméra vidéo parfaite sur certains points. On en parlera, justement. Mais par contre, visuellement, le rendu que tu as grâce à leur monture Z et l'optique Nikon, waouh, c'est joli. C'est joli. Non, c'est joli. Hugo, même spontanément, oui. Il savait pas que je le filmais, spontanément, quand il a commencé à tourner avec le Z6, oh putain, elle est belle l'image. Non, ça fait des belles images.
Ça fait des belles images. C'est plus simple que d'utilisation que Sony. Tu te prendras moins la tête dans les menus et tu sors directement.
J'ai vu ta story d'hier avec Sony. J'étais éclaté de rire. J'adore quand tu dis « Oui, alors pour simplifier les choses, vous pouvez mettre un guide qui va vous expliquer les fonctions du Sony sur un bouton de raccourci sur votre boîtier. Et là, je vois ton dernier truc, menu numéro 18. Pour moi, c'est tellement Sony, ça. La page 18 de ton menu A2B+.
C'est d'un sous-sous-menu.
Ah, mais c'est ça.
C'est un sous-sous-menu.
Pour moi, Sony, c'est ça. Menu A2B+, sous-rubrique 4, rouge, page 18.
Et le mec qui a fait le menu Sony est champion du monde de Mahjong.
Ah oui, oui. Ouais. Réflexe ou hybride ? Hybride. Réflexe, pour moi, c'est vraiment
c'est
la
fini,
fin.
Ouais.
C'est la fin. Le...
C'est la fin.
C'est la fin. Allez, il est 9h15.
Et c'est comme ce Texcope, c'est la fin.
C'est la fin, on a explosé tous les records. Samuel est en PLS, il a de la bave qui s'écoule. Qui s'écoule. On enlève nos chapeaux, on les range pour l'année prochaine, Albert. Peut-être que l'année prochaine, on investira dans un nouveau costume, parce que là, on a fait un peu cheap. C'est les mêmes causes. T'as vu, ça se replie comme les...
Ouais,
Master
Light.
Ah, ouais, tout à fait. En tout cas, dans les annonces très, très importantes, je les résume. Salon de la photo, ça commence le 7 novembre. Vous nous y retrouverez, il y aura un stand YouTube.
On sera tous les soirs à partir de 17h, samedi soir.
Voilà, on fait la fête samedi soir, tous ensemble, meet-up. Ça sera dans un bar à côté de la Gare du Nord. Il faut absolument aller
vous inscrire sur Facebook.
On a fait un event sur la page Facebook. Également, rendez-vous mardi matin. Shadow a une grosse annonce à faire et normalement il devrait y avoir une vidéo sur la chaîne qui vous résumera l'annonce de Shadow. Continuez à jouer au jeu Shadow, portez-vous bien, faites-vous plaisir, soyez des champions, passez un bon week-end.
Et si tu veux que Jérôme vienne déguiser la soirée, envoie
non,
deux
non,
au 10
20 Albert, 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 Albert. Non mais j'aime pas les déguisements moi.
Ah ouais.
J'aime pas, ça me fait peur.
Oh non.
J'ai peur quand je suis déguisé.
Mais faut pas,
chez
non.
Qui, ce monsieur ?
Non, mais si, t'as peur, on va te protéger, peur. Jérôme.
Non, 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 toi, je connais ta protection. Amis. Allez, on vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde.
Ciao, au mois prochain peut-être.